RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Vous savez comment être grande gueule avec nous, comment réagir, comment intervenir. C'est le 32-16 pour réagir aujourd'hui avec les GG, avec le maire de Coubron en Seine-Saint-Denis. Il est médecin généraliste, docteur Ludovic Toro. Bonjour doc.
Bonjour les grandes gueules.
Nous sommes avec Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère. Bonjour Kaouter.
Bonjour Alain, bonjour les GG et bonjour à tous nos auditeurs, spécialement Kiki, Patrick, Alain Balou qui sont des fans absolus, Stéphane.
C'est à Marseille ça.
À Marseille, du côté de Marseille, et ainsi que des Parisiens qui sont délocalisés à Marseille pour le travail, des professeurs comme Jamel,
etc.
Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages quotidiennement pour vous saluer à tous.
La délocalisation. Nous sommes avec Laurent Magnin, qui est consultant en tourisme aéronautique. Bonjour mon cher Laurent.
Bonjour à mes compatriotes.
Nous sommes avec Sarah Saldman. Avocate, bonjour maître.
T'es encore un peu en vacances?
J'ai un peu de mal, avec le retour de vacances, je suis encore en train de dormir.
Avec les lunettes de soleil.
L'hiver montagneux.
La woman in black, en fait, la manière dont t'es habillée. Sarah Saldman, qui est avec nous aujourd'hui, elle a garni ses lunettes de soleil. Pas n'importe lesquelles de marque, je regarde. Ah oui, quand même, bien sûr. Non mais je pense que sur le côté, je voulais savoir s'il y avait écrit, si c'était du hard discount ou pas.
C'est forcément siglé, si c'est Sarah. Sûr,
c'est
forcément.
Du expensive discount.
Tout de suite dans le préjugé, la caricature.
Elle va les enlever, bien sûr. Tout à l'heure, je vous donne nos trois gros sujets de discussion, comme ça vous pouvez commencer à composer le 32-16 à 10h. C'est Ludovic Toro qui nous a alerté hier en discutant. Il nous a dit la variole du singe, les amis, il faut s'inquiéter. Alors, oui ou non, Ludovic est dans le camp du oui avec Kaouter Ben Mohamed, moins
dire oui,
pour Laurent et Sarah Saldman. Je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? On en parlera tout à l'heure à 11h. À 10h, on reviendra sur l'imam Hassan Iqiyoussen, vous savez, l'imam de Denain dans le nord de la France. C'est aujourd'hui que la justice doit dire si oui ou non. Il est expulsé vers le Maroc. Alors on est quand même dans une drôle d'histoire, parce que tous les propos qu'il avait tenus il y a des années, bon, ça pouvait choquer, mais on n'a pas vu les autorités beaucoup bouger. Puis là, d'un coup, faut le foutre dehors, l'imam Iqiyoussen. À tort ou à raison, est-ce qu'on est dans une histoire politique où Gérald Darmanin, il a raison, de toute façon, ce genre de personne est indésirable sur notre territoire, il faut l'envoyer, en l'occurrence, là, c'est au Maroc, 10 heures pour reparler de cette histoire avec nous. Premier sujet de discussion, alors là, c'est notre vie quotidienne, les amis. Hein. Maintenant, quand on ouvre le robinet, j'ai l'impression que le temps des enfants gâtés de l'eau, il est terminé, on parle de la sécheresse.
RMC, les grandes gueules.
Les restrictions d'eau qui se multiplient, nous sommes face à une sécheresse exceptionnelle. C'est ce que dit la ministre Elisabeth Borne. Écoutez bien les propos tenus par la Première ministre. Situation historique que traversent de nombreux territoires. Elle active donc la cellule interministérielle de crise. En Haute-Corse, on s'inquiète d'une vraie pénurie de l'eau d'ici 3 semaines. Dans le Haut-Pays de Fayence, dans le Var, on surveille attentivement l'utilisation de l'eau et on a des agents municipaux et des agents des régies de l'eau qui vont passer contrôler ce que font les habitants. À Gérardmer, dans les Vosges, on pompe l'eau du lac afin de la renvoyer vers le réseau. On a 93 départements sur 96 qui font l'objet de restrictions limitant l'usage de l'eau. On a des départements qui sont placés en situation de crise. Donc, la question que je vous pose, est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites vraiment des efforts pour limiter votre consommation de l'eau? Est-ce qu'on arrête de se comporter en enfant gâté de l'eau? 32-16 pour en parler avec les GG. Monsieur Laurent Magnin.
Écoute, moi je suis dans le Loiret où j'ai vu une rivière disparaître pendant 10 ans parce qu'on pompait trop sur la nappe phréatique. Mais problème des agriculteurs, hein, qui ont un réel problème par rapport à tout ça. Et concrètement, si on fait rien... On va pas avoir une rivière qui va disparaître. On va en avoir plusieurs. On va avoir des vrais soucis. Et je crois qu'effectivement, il va falloir répondre à tout ça. On va pas pouvoir rester.
C'est-à-dire qu'on doit plus se comporter en enfant gâté, ouvrir l'eau du robinet.
Moi, je crois beaucoup à la technologie là-dessus. Hein. C'est-à-dire que ça me fait toujours marrer de voir les gens qui maintenant leur rythme cardiaque, le nombre de pas par jour. C'est formidable aujourd'hui.
Regarde,
ça veut dire que la technologie, j'y crois dans ce qu'on consomme. C'est-à-dire que demain, merci de me laisser finir, ma chère Sarah, avec tes belles lunettes noires.
Elle les a enlevées.
Ce que je crois concrètement, c'est que demain, un citoyen dans ce qui se passe en termes de consommation électrique, de l'eau, de tout ça, il doit pouvoir dire dans la journée, tiens, j'ai fait ça. À la limite, faudrait presque que ça devienne ludique. On se bat pour faire mieux. Mais il n'y a que la techno qui peut t'apprendre ça. Comment tu sais combien tu consommes d'eau par jour? Tu vas pas le nez sur ton compteur.
Mais tous sans les jours, compter, personne sans fait ça. Compter, mon cher. Moi, je suis quelqu'un qui est très alerte sur l'eau depuis quelques années.
En plus, chez toi, enfin, chez nous, Marseille, le sud.
Voilà, chez nous, le sud, et parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans des villages très reculés en Afrique, et j'ai vu ô combien l'eau était une denrée précieuse et pas accessible à tous. Donc, moi, ça fait très longtemps que je fais attention à la manière de consommer ce bien précieux qui est absolument vital pour la planète entière, mais qui est pas toujours accessible. Sauf que je ne crois pas que ce soit qu'un problème de consommation des particuliers. Il y a aussi un problème de la consommation des industriels. Et ça, personne n'en parle parce que je pense qu'une grosse entreprise consomme beaucoup plus qu'un village, voire qu'une ville, tout dépend de son activité. Et qu'il doit y avoir une prise de conscience globale, pas que du particulier.
C'est-à-dire, quand tu dis, moi, ça fait longtemps que j'y suis sensible, tu fais quoi précisément au quotidien? Et là, peut-être
moi,
davantage cet été.
Je ne prends plus trop de bains. Avant, j'en prenais quotidiennement, y compris avec mon fils. Donc ça, c'est quelque chose que je m'interdis. Et j'ai expliqué à mon fils, parce que je l'aime dans
ce
village.
Oui, tu lui fais de l'éducation aussi. Ouais.
Bien sûr, à mon fils et à ses copains, et à tous les gens qui sont autour de moi. Je ne laisse jamais l'eau, je m'engueule toujours quand je vais chez quelqu'un et que l'eau coule, qu'on laisse le robinet ouvert pour faire n'importe quoi. Enfin, tu éteins l'eau, tu remplis une bassine pour rincer la vaisselle, etc. quand tu n'as pas de lave-vaisselle à ta disposition. Enfin, c'est des gestes quotidiens qui... Quand on le fait en termes d'éducation, c'est un automatisme, ça devient très vite un automatisme. Alors, ça peut faire, excusez-moi, ça peut embêter au début, parce qu'on a l'habitude d'avoir tout à volonté dans nos pays. Mmh. Sauf que quand on est conscient qu'on n'a pas tout à volonté, que c'est un bien, encore une fois, qui est vital et qui n'est pas accessible à tous, eh bien, on a un peu de responsabilité. Alors, il y a de la responsabilité individuelle de chaque citoyen, mais il y a une responsabilité aussi collective de nos industriels, ici et ailleurs, parce que, voilà, ils consomment, eux, plus que beaucoup. Et tu vois, j'ai lu un peu hier... Il n'est pas essentiel, en cette période de grande sécheresse, de faire du golf. Quoi. Tu vois ce que tu dis ? Il y a d'autres priorités, je pense. J'ai vu qu'il y avait un agriculteur aux informations qui cultivait la pomme de terre pour lequel il était interdit de consommer de l'eau. Mais par contre, pour le bon plaisir d'une poignée de personnes, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait du golf quand même, c'est que des
privilégiés. Très sympathique, le golf.
J'ai pas dit que ce n'était pas sympathique, j'ai dit que ce n'était pas une priorité. Et quand on voit qu'un agriculteur n'a pas le droit d'arroser ses champs de pommes de terre et que ça le met en danger de perdre la moitié de sa récolte, il n'est quand même pas concevable et pas acceptable que des terrains de golf soient...
Alors, les golfs disent eux-mêmes qu'ils ont réduit l'amplitude des arrosages, que maintenant c'est concentré autour de ce qu'on appelle, pardon, hein, je vais peut-être dire, je suis pas très bon en technique golf, c'est le green, tout ce qu'il y a autour du drapeau et du trou, et qu'ils ont réduit les systèmes d'arrosage.
Le green, hein,
et
appelle le yellow. Non mais c'est fini.
T'as raison. Et qu'en plus, si tu veux, ils disent attention. Nous, on est une filière économique aussi. Il faut qu'on entretienne la filière économique. On pèse plusieurs centaines de millions dans le pays. Et si les joueurs ne viennent plus, ça peut paraître dérisoire. Mais derrière, il y aura des conséquences aussi sur l'emploi. Sarah Salman, toi qui avais créé la polémique ici en disant moi l'eau, je prends du bain, je fais ce que je veux.
Je suis très sensible à l'écologie. C'est une de mes priorités quand je me lève le matin. Et j'ai vraiment une annonce officielle à faire. Ce matin, en direct avec vous, je vais passer de 2 bains par jour à 1,5 bain. Donc ça, ce sera le geste que je fais pour la planète. Je vais vraiment faire ce geste-là. Plus sérieusement, je dirais...
C'est quoi 1,5 bain?
Ça veut dire que tu mets les pieds
dans le bain.
Normalement, j'en fais couler un peu. Puis...
Et sérieusement, ouais.
Plus sérieusement, c'est aux industriels de faire un effort. Les efforts de Caouter, ils sont bien gentils, mais c'est symbolique. Tu fais ça pour te donner bonne conscience.
Absolument pas.
Bah, en tout cas, c'est le résultat que ça fait. Tu te donnes bonne conscience, mais ça n'a aucun effet.
Ça n'a rien à voir avec ma conscience. Moi, je suis consciente que je suis passée sur cette planète, en fait.
D'accord.
Voilà. Et que j'ai pas le droit de tout consommer parce que j'habite dans un pays qui est privilégié.
Parce que les efforts que tu fais, toi, moi, sont anéantis par ce que je fais moi. Donc
oui,
ça ne sert à rien.
Exactement. Ils sont anéantis. Donc toi, tu n'es pas une industrielle.
Exactement.
C'est aux industriels de faire un effort. Parce que c'est eux qui consomment le
plus. Mais pas que.
Non, attendez, mais
alors monsieur le maire, tiens.
Non mais attendez, je veux bien tout ce que vous voulez.
Peut-être.
Pardon ?
C'est pas parce que je dis ça qu'on doit vous voyer.
Ah non, mais j'ai dit tout.
Attendez
tous, vous êtes attendez, moi je parle le français, vous êtes 5, 4, on dit attendez. Après je vais lui dire tu
monsieur le maire,
je vais arriver. Donc ça pas le matin, que faites quelque chose monsieur le juge.
Non mais ça va venir.
C'est l'avocat là, c'est pas le juge. Putain, ça part fort dès le matin.
Vas-y Ludovic.
Mais la cause c'est quoi ? Bien le réchauffement climatique, vous avez bien compris que si on continue à rien faire, et comme tu le disais, ta rivière, tu l'as vu chaque année descendre, c'est que ça va être de pire en pire. Mmh. Nous, on va faire des efforts, mais il faudrait que là-haut, ceux qui décident sur le réchauffement climatique fassent quelque chose, parce qu'ils ne font rien. L'efficacité est de zéro depuis 30 ans. Mmh. Si on continue à ce rythme-là, avec l'augmentation de la température qui va être dans de 4 ou 5 degrés, vous allez voir ce qui va se passer. Mais je voulais dire quelque chose, la consommation d'eau par habitant par jour, par habitant est de 146 litres. Ça vous paraît beaucoup, mais on rentre dans tout ça, la piscine. Une autre chose que vous ne savez peut-être pas, 1 litre sur 5 qui passe dans nos canalisations, ce sont des fuites d'eau. Vous vous rendez compte?
On a 856 000 km de réseau qui fuit.
Oui. 20% de la flotte, on la perd parce que tout simplement nos réseaux sont vétustes, parce qu'on les a pas refaits depuis des années. Donc déjà, et 20% d'économie, c'est pas rien. Mais je vois pas l'État nous dire on va refaire les réseaux. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire que nous, on va faire des efforts à fond, mais l'État ne fait rien pour juste mettre, comme on fait chez nous, quand vous avez une fuite chez vous, vous avez à boucher la fuite, d'accord? Et eux qui sont en charge des réseaux,
il ne faut pas. C'est juste les particuliers qui font éventuellement ou pas des efforts et c'est anéanti parce que mais voilà. En haut rien n'est fait.
Non,
ça c'est un problème.
C'est pas anéanti. Je veux dire, il ne faut pas opposer les deux.
Non.
Il ne faut pas opposer les deux. Que les citoyens ici, vous rendez compte que dans les Vosges, il y a un village, il y a une petite ville où la population n'a plus accès à l'eau potable. Ils sont obligés d'acheter de l'eau. Ils vont se doucher avec l'eau du lac. Ils vont laver leurs légumes. Donc il y a des personnes qui étaient, ils se disaient, ouais, on va pas nous mettre en danger. Des personnes qui étaient très inquiètes. Je regardais ça aux informations hier.
Oui, ça a géré.
Donc voilà. Donc à un moment donné, encore une fois, les deux ne sont pas opposables, ils ne doivent pas être opposés. Il y a des politiques globales qui doivent être menées par, non pas le gouvernement français, mais les gouvernements du monde entier. Et la population française et mondiale doit faire un effort et doit arrêter de se comporter
en enfant gâté. On n'a jamais dit que c'était antinomique.
En enfant gâté.
Il n'y a qu'à Foucault, on ne fait rien.
Moi, quand tu me dis... Oui, ben, pas pour toi, moi je fais.
Non. Voilà. Au niveau mondial, tu parles des efforts, il n'y a rien. L'effet est de zéro aujourd'hui.
On va de Grenelle en Grenelle, on va de réunion en réunion et il n'y a rien. Il n'y a aucune mesure concrète.
On brasse beaucoup d'air et il ne se passe rien.
Au niveau personnel, on doit aussi, moi, quand tu me dis, Sarah, avec toi sympathique, j'ai pour toi, quand tu me dis, je passe d'un bain à un bain par jour, j'ai envie de te noyer dans ton bain.
C'est deux bains, hein,
mais deux douches, c'est très.
Non, tu pourras pas la noyer dans un demi-bain.
Dans un demi-bain, tu vois,
mais sérieux.
Moi, je veux bien qu'on ait la liberté individuelle, etc., mais il faut être conscient qu'on n'est pas seul sur cette planète et qu'il y a des gens, y compris dans notre pays aujourd'hui, qui n'ont plus accès à l'eau potable. Donc, ça, c'est une prise de conscience qui doit être générale et individuelle.
L'exemple doit venir d'en haut, même.
Peu importe, si tu as pris des coachs ou quoi, tu fais le corps aussi. Alors si demain on est dans une société, alors si on a que des tueurs, on devient une tueur aussi. C'est idiot cet exemple.
Mais c'est pas ça. Rappelle-toi récemment sur le réchauffement climatique, les voitures là, ils attendaient les chauffeurs des ministres. Oui. Et avec la truc, l'exemplarité, c'est ce qu'on voit à la télé.
Le jet pour aller voter, est-ce que c'est bien?
Oui, ben c'est pas bien, mais c'est pas parce qu'ils sont idiots qu'on doit être idiot aussi.
Jamais il y a eu autant de consommation de vols depuis que Macron est à la tête du pays. Je te dis que l'exemplarité, c'est important. Tu regardes ce que font tes parents et tu fais la même chose. Tu regardes ce que fait ton président et tes ministres.
Moi, je suis éducatrice spécialisée de métier. Je suis désolée et j'ai vu bon nombre d'enfants donner des leçons à leurs parents et leur dire voilà, c'est comme ça qu'on consomme, c'est comme ça qu'on fait attention. Donc moi, me prendre l'exemple de Macron. Macron, c'est pas mon père, c'est pas mon modèle. Oui. Donc celui qui veut le suivre, il prend sa responsabilité. Et celui, exactement.
Maintenant,
on n'a pas 4 ans et demi, on n'est pas à la maternelle.
Parce que faut quand même être sérieux. Elle a raison. Un geste individuel décliné par 65 millions d'habitants dans un pays. Non, mais vous imaginez l'impact?
Mais c'est pas antinomique.
Je voudrais qu'on en parle avec Jean-Marc. Jean-Marc qui est gérant d'hôtel et qui nous appelle de la Nièvre. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour Jean-Marc.
Est-ce qu'on s'est comporté en enfant gâté de l'eau et aujourd'hui il faut faire des efforts?
Alors, je peux pas dire pour tout le monde. Par contre, nous, de notre côté, au niveau de l'hôtellerie, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de dépenses d'eau à inutiliser. Les gens prennent des douches nettement plus longtemps ou des bains. Et au niveau du classement hôtelier, donc il y a eu une demande de réduction de l'eau. Donc en effet, vous avez maintenant des mousseurs soit dans les douches, soit dans les robinets et dans d'autres domaines. Nous, personnellement, on est qu'un hôtel une étoile, on est un hôtel indépendant. On a décidé d'aborder l'écologie au moment du Covid. Donc on a d'abord commencé par la partie petit déjeuner où on fait un petit déjeuner anti-gaspi. Oui. Mais le sujet n'est pas là-dessus et plutôt sur l'eau. On a d'abord changé tous nos robinets. On a mis des robinets automatiques de 6 secondes qui consomment en fait entre 1,5 et 3 litres à la minute. Sachant qu'un robinet normal consomme entre 6 et 8 litres et un robinet avec mousseur consomme 5 litres.
D'accord, donc vous avez changé la robinetterie.
Ouais. Voilà, exactement. Et le principal qu'on a fait et qu'on va développer complètement pour 2025-2026, c'est que nous, on avait des sanibroyeurs et les gens jetaient n'importe quoi dans les sanibroyeurs. Et on a décidé de changer.
Quoi.
Oui, souvent, on jette des noyaux de pêche, des tampax, des choses comme ça. Total, ça bloque les moteurs, ça casse les moteurs. Ouais. Donc, pour changer un sanibroyeur, il faut compter à peu près 900 euros. Et on s'est dit, on va mettre des toilettes sèches.
C'est-à-dire les toilettes sèches? Expliquez.
Alors, les toilettes sèches, en fait, c'est des toilettes où vous, il n'y a pas d'arrivée d'eau, mais quand vous faites votre pipi et popo, et ben, vous remplissez avec des copeaux, et à la fin, tout revient à la terre. Donc, c'est-à-dire, une fois que tout est rempli, vous pouvez, faut composter le tout. Alors, ça met 2 ans. Alors, ça, c'est pour l'instant le seul souci, c'est que ça met 2 ans.
C'est un concept. C'est un concept. C'est dans les.
Voilà. C'est ce que vous avez mis en place à l'hôtel.
Alors, nous, on a mis d'abord à l'hôtel au niveau des toilettes communes et ensuite, on a mis dans deux chambres différentes. Des toilettes sèches.
D'accord.
Alors, vous avez des toilettes sèches qui sont séparables également, où vous avez le popo qui tombe d'un côté et le pipi de l'autre, et le pipi peut être réutilisé pour un engrais en mélangeant avec de l'eau. Mais en fait, le but, c'est que de toute façon, vous mangez, vous digérez et tout revient à la terre à la fin. Et,
d'accord, donc et Jean-Marc, votre hôtel est passé vraiment en concept complètement écologique.
Exactement.
Pour recycler,
pour rappeler Nadir
et économiser, oui, et économiser, Nadir et économiser de l'eau. Mais non, mais ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que toi tu comptes à la fois sur la recherche et le développement, tout ce que les technologies aujourd'hui, tu vois, avec la robinetterie, c'est ce que disait Jean-Marc, tout ce que ça peut nous apporter aujourd'hui. Quoi.
Juste une question, dans votre hôtel, vous avez des baignoires?
Alors oui, on a des baignoires.
Ça pique un peu les yeux alors votre discours.
Voilà, c'est un vieil hôtel, donc en effet on a des baignoires. L'idée, c'est de repasser quand même en douche, mais bon, les gens qui viennent dans des hôtels aiment bien avoir un bain. C'est vrai que la baignoire commence à disparaître complètement dans les habitations communes, et quand ils vont dans un hôtel, ils aiment bien avoir un bain.
D'accord.
Je suis d'accord, ça consomme beaucoup. Pour en revenir aux toilettes, il faut savoir que quand on tire la chasse d'eau, on tire à peu près entre 5 et 9 litres d'eau, mais
et de
l'eau potable.
Et là, c'est l'aberration, elle est peut-être là aujourd'hui, c'est de continuer. C'est ça qu'il faut changer aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'on continue d'utiliser de l'eau potable pour les toilettes ou pour les douches, quoi. Donc, je ne sais pas quel système on peut trouver de dérivation des tuyaux ou autre.
Récupération de l'eau de pluie, déjà, si vous êtes en pavillon et même en grande, il faut mettre des bacs de récupérateur d'eau de pluie. En effet, on ne les boit pas, mais on peut au moins arroser.
Mais tiens, parce que tout à l'heure, tu as tiré notre attention sur les fuites du réseau. Toi, en tant que maire, comment tu contrôles le réseau?
Tu sais comment je le fais? Parce qu'un jour, la route s'écroule. C'est-à-dire, comme ma ville est
vallonnée. C'est Veolia, les réseaux.
Oui, mais
non, mais c'est arrivé à Marseille.
Mais ça arrive dans toutes les villes.
Tout s'écroule à Marseille régulièrement.
Oui, non, mais là, blague à part, c'était mercredi devant un cinéma, et c'était à 1 heure de grande influence, en plus, c'est un endroit où il y a un marché, et d'un coup, la route s'est écroulée, il y a eu un trou, et c'était quand même assez impressionnant. Il n'y a pas eu de blessés par miracle, tu vois, mais au-delà des bâtiments, effectivement, c'est un grand problème. Mais les routes aussi s'effondrent et c'est un phénomène qui n'est pas isolé, malheureusement.
Évidemment, c'est ce qui se passe, en fait.
Donc, en fait, tu contrôles le réseau.
Non, moi, je ne contrôle rien du tout.
Tu vois l'état du réseau que quand tu as un
écoulement. Oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, de l'eau qui coule, ça amène le sable à terre et à un moment, tu vas avec une voiture, ça s'effondre. Donc, il y a les trottoirs qui sont effondrés. C'est comme ça, surtout dans les villes qui sont un peu vallonnées. Je veux dire, ça coule, l'eau coule. Et voilà. Et puis, à un moment, tu n'as plus que le bitume et quand tu marches dessus, ça s'effondre. Voilà comment on fait pour
récupérer. On continue d'en discuter dans un instant, nous serons en Corse avec un élu de l'Assemblée Corse, Saverio Luciani, qui sera avec nous. C'est l'ancien président de l'Office d'équipement hydraulique de Corse. Dans 3 semaines, la Haute-Corse dit on n'aura plus d'eau. Alors, est-ce qu'on joue à se faire peur? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes inquiet? Est-ce qu'on arrête d'être les enfants gâtés de l'eau? Est-ce que vous faites vous-même des efforts, des gestes? 32-16 pour continuer d'en parler avec les grandes gueules, en direct sur RMC et RMC Story. Il est 9h20.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.
RMC,
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal.
Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui l'avocate Sarah Salman, avec Laurent Magnien, consultant en secteur aéronautique et tourisme, le docteur, le maire de Coubron aussi, Ludovic Taureau et Kauter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère. On a la cellule de crise qui a été activée à Matignon, sécheresse exceptionnelle, situation historique dans 93 départements sur 96, des restrictions de consommation ou d'utilisation d'eau qui ne cessent d'être prises dans les municipalités, dans nos territoires. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes inquiet? Est-ce que vous faites très attention à la manière dont vous consommez de l'eau? Est-ce qu'on arrête d'être les enfants gâtés de l'eau? 32-16 pour en parler avec les GG. Saverio Luciani est avec nous. Il est élu de l'Assemblée de Corse, ancien président de l'Office d'équipement hydraulique de Corse. Bonjour, monsieur Luciani.
Bonjour.
Dites-moi, très franchement, quand on dit au 25 août, on n'aura plus d'eau en Haute-Corse, c'est vrai ou on se fait peur?
Je crois qu'on se fait peur, je crois que c'est une annonce préfectorale. Alors on parle des réserves, bon,
grosso modo, entre les barrages d'EDF et les barrages de l'hydraulique, doit être autour de 50 millions de mètres cubes. Donc, il n'y a pas de. Je veux dire, pas d'inquiétude. Je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez précisé, c'est une question de rapport à l'eau, de rapport culturel à l'eau qu'il faut absolument changer dans ce pays.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Que doit-on faire?
En gros, bon, les gens, quand on évoque la sécheresse, non, la Corse est un pays où il pleut beaucoup, mais il pleut mal, et dans le temps et dans l'espace. Donc, il est évident qu'on évoque tout de suite le stockage pour sécuriser en quelque sorte la ressource, mais au-delà du stockage, on ne peut pas aujourd'hui remplir les barrages et consommer comme on consommait l'eau il y a 30 ans. Aujourd'hui, il faut absolument changer le rapport à l'eau en termes de consommation, en termes de gestion régionale, y compris pour les collectivités, parce qu'on évoque souvent le monde agricole, mais les collectivités aussi ont besoin de ne plus arroser leur rond-point, par exemple, leur pelouse, en plein mois d'août. Et, bon, et les Corses, en règle générale, mettent ça sur le dos aussi du tourisme. Le tourisme consomme, en gros, entre 3 et 4 millions de mètres cubes par an, c'est-à-dire, en gros, 5% de la ressource consommée. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une révolution culturelle à apporter, et pas simplement en Corse, mais aussi une révolution culturelle. C'est-à-dire qu'il faut une adaptation, aujourd'hui, des spéculations agricoles, à des variétés qui sont moins voraces en ressources.
D'ailleurs, on doit changer notre modèle, quoi. C'est ce que vous dites, monsieur Luchin.
Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser ce que pensait notre grand-père par rapport à l'eau. Je crois qu'aujourd'hui, l'eau en Corse, en tous les cas, dans le climat, je dirais, d'insularité méditerranéenne, vous avez vu que les incendies aujourd'hui touchent non seulement le pourtour méditerranéen, mais ils touchent aussi la France et remontent vers la Bretagne, donc vers le nord. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où le climat méditerranéen n'est plus le climat méditerranéen que nous avons appris dans nos livres de géographie du CM2 de l'époque. On est vraiment dans un climat qui change. Il change parce que la ressource baisse. Juste une indication. Le plan d'adaptation au changement climatique qui a été voté par la Corse, qui j'espère sera mis en place assez rapidement, prévoit un tarissement des cours d'eau, donc de la ressource superficielle, de 50% entre 1970 et 2070, avec un accroissement démographique pratiquement de double. En gros, on aura à peu près 500 000 habitants en Corse à ce moment-là, plus bien sûr, le flux touristique des mois de juillet et août. Donc, vous voyez un peu, la problématique est complexe. C'est-à-dire que la gestion de l'eau raisonnée, elle est vraiment sur la table aujourd'hui.
D'accord. Donc, oui. Et d'autant que, aujourd'hui, on se rend compte d'une chose. C'est-à-dire que, on a été une société de l'eau, de la consommation de l'eau, que ce soit de l'eau du robinet, ou même quand on passe dans les supermarchés, de l'eau minérale. Moi, je voyais, la région de Volvic, le maire du côté de Volvic, qui dit stop. L'usine, en fait, aujourd'hui, d'eau minérale, elle peut plus continuer de pomper autant dans les nappes phréatiques. Donc, c'est ça aussi qu'il faut revoir. C'est vraiment notre rapport à l'eau. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des dizaines de bouteilles d'eau minérale qui pompent aussi les nappes phréatiques, monsieur Luchan? Tout ça, écoutez, ça doit être remis en cause.
Les nappes, là, encore si peu par an, en gros 8 milliards de mètres cubes. C'est énorme. C'est un relief près de 3000 mètres. C'est pas la Sardaigne. La Sardaigne stocke 2 milliards de mètres cubes. La Corse en stocke à peu près 107 millions, donc beaucoup moins. Oui. C'est pas finalement une histoire de ressources. À un moment donné, je crois qu'on peut consommer moins, mais consommer mieux. C'est ça le vrai message à porter aujourd'hui. Et je le dis d'autant plus que, je rebondis sur un terrain politique, on a besoin bien sûr d'un rattrapage historique en termes de l'infrastructure, mais vous savez, si on touche à l'eau, il faut toucher aussi à l'assainissement, il faut aussi toucher à la réutilisation, c'est-à-dire à la réutilisation des eaux usées, on agricole. Tout ceci, c'est aujourd'hui dans un plan que moi j'avais à l'époque proposé aux élus de la Corse, qui s'appelle Aqua Nostra 2050, parce qu'il y a 30 ans de chantier, non seulement pour les infrastructures, les aménagements, mais aussi, je crois, pour transformer la mentalité des Corses, ça, et pas que des Corses. Voilà, la révolution culturelle, elle est là.
Changement de mentalité. Merci, monsieur Luchan. Merci d'avoir été avec nous. Changement de mentalité en Corse, changement de mentalité globale, culturelle. Aujourd'hui, on doit faire notre révolution culturelle par rapport à l'eau. Mais pourquoi tu as l'air d'être dans le.
J'entendais ce que tu disais, la cellule de crise. Il se réveille. Il n'y a jamais d'anticipation. Parce qu'il y a un problème, on fait une cellule de crise. Mais ça fait 30 ans, il vous l'a bien dit, l'élu. Mais partout, la cellule de crise, elle est en
Ceux qui nous préviennent depuis 30 ans, c'est les écologistes, hein. Non. Ludovic Toro.
Oui, enfin, c'est pas, c'est nous aussi.
La cellule de crise, elle s'adapte parce qu'on a 80, on a des niveaux qui baissent et on a 93 départements qui se retrouvent.
Arrêtons de parler de
situation. Les écolos, hein.
Non, pas les écolos. Ouais, c'est pas méchant, mais ils ont été un peu au pouvoir, ils ont rien fait. C'est pas politique du tout, c'est humain. Et tu l'as raconté tout à l'heure. Mais je voulais dire une chose. Cellule de crise, elle est permanente. Mais, je vous rappelle que le prix de l'eau, quand ça va être rare, va augmenter. Elle a augmenté déjà de 11% en 10 ans. Ça veut dire que plus elle va être rare, plus elle va être chère. Et ça va être pareil. C'est-à-dire, la chasse au gaspic, moi j'ai connu quand j'étais jeune, il faut la faire partout. Sur l'essence, sur l'électricité, sur l'eau. On en a plus. C'est même plus le prix, mais il va jouer aussi. Mais aussi la pauvreté de la chose. Donc, quand il y en a moins, on fait en sorte, et surtout quand elle coûte cher, d'en prendre moins.
Nous sommes avec Jérôme qui est agriculteur. Il nous appelle des Deux-Sèvres. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour.
Bonjour. Comment vous réagissez-vous à toutes ces restrictions qui se mettent en place, alors Jérôme? Pour vous, qu'est-ce que ça change d'ailleurs?
Les restrictions, alors moi je suis pas irrigant, hein, parce qu'on est sur la plaine du Toircel, dans le nord des Deux-Sèvres, et du coup, c'est vrai que on n'a pas d'eau dans le sous-sol. Donc on a très peu de stockage d'eau chez nous. Et moi j'appelais parce que finalement j'en ai un peu marre d'entendre parler de sécheresse, parce que qu'est-ce qu'on fait depuis des années? Rien ne se fait pour endiguer tout ça. Alors il y a même un autre, il faut aussi que les politiques prennent leurs responsabilités.
Est-ce qu'il y a lesquels?
Eh ben, mettre en place tout ce qu'il faut. Alors, je sais bien ce que je viens d'entendre, c'est vrai. Même si demain on met en place des choses pour stocker de l'eau, c'est pas pour ça qu'on doit la gaspiller. Mais faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'eau, c'est la vie. Nous, si chez nous, les agriculteurs, chaque année, on subit les sécheresses, demain, ça va être très compliqué d'arriver à avoir une souveraineté alimentaire.
Mais justement, aujourd'hui, Jérôme, parce que on appelle les agriculteurs à réformer aussi la manière dont ils utilisent l'eau. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, Jérôme.
Moi, ça fait 15 ans que j'ai mis en place l'agriculture de conservation des sols. C'est-à-dire qu'on met tout en place pour avoir des sols qui stockent de l'eau suffisamment. Sauf qu'à un moment ou à un autre, quand il ne pleut pas du tout, on peut faire ce qu'on veut, on peut changer de pratique. Ça n'empêche pas qu'on subit la sécheresse malgré tout. Donc je veux bien croire qu'il faut peut-être dans certains endroits changer les pratiques, mais c'est pas ça qui va régler le problème. Aujourd'hui, on ne stocke que 2% de l'eau qui tombe du ciel, et il y a d'autres pays en Europe qui ont mis en place d'autres politiques, et on voit qu'aujourd'hui, ils préparent l'avenir déjà aujourd'hui, et que nous, encore une fois, on est un peu en retard.
Mais pourquoi est-ce qu'on est en retard? Parce que c'est quoi? C'est un manque de volonté publique? Parce qu'il y a des blocages?
Bien sûr, c'est un manque de volonté politique, mais il faut savoir mettre quelques règles aussi. Aujourd'hui, je vois, moi, dans le sud du département, il a été mis des bassines en place. Je suis pas pro-bassine, loin de là. Moi, je suis plus pour des retenues collinaires, mais il faut absolument que quand on crée des réserves d'eau, toute la société puisse en profiter pour justement développer du tourisme, du nautisme, la pêche. Et c'est en partageant ces taux, finalement, qu'on arrivera à rendre ce stockage d'eau acceptable.
Merci d'avoir été avec nous, Jérôme. Merci de ces éléments.
Je veux rebondir, c'est... Tout le monde autour de la table, on passe de cellule de crise à cellule de crise, et pas que sur la sécheresse, sur le logement, sur la pauvreté, sur le pouvoir d'achat. Ces gens-là qui nous gouvernent, on les a pas mis en poste de force. Ils sollicitent le scrutin des habitants de ce pays, 65 millions. Ils sont en poste et on est toujours à gérer des crises H24, peu importe le secteur. Gouverner, c'est prévoir. À quel moment, au-delà d'une cellule de crise, il y a une cellule de travail pérenne, sur le long terme, en termes de technologie, en termes de mise en place, notamment dans les collectivités, mais pas que, pour imposer chez les industriels, chez les agriculteurs, chez les particuliers, des mesures pérennes qui vont permettre à chacun de nous, et pas qu'en France, mais à chacun de nous, de vivre correctement, en fait, sans abus, mais sans que ça devienne trop cher non plus.
Non, mais c'est intéressant, si parce qu'en fait,
il y a toujours que des cellules de crise et il n'y a pas de cellules de travail sur des mesures à moyen terme et long terme. Il faut travailler.
Sur l'eau ou sur l'utilisation de l'eau, en fait, ceux qui sont en avance, ce sont les industriels. Tu vois, l'autre jour, c'est tout bête, mais en passant dans une enseigne de bricolage très connue, je regardais le nombre de pommeaux de douche que tu peux avoir. Et avant, t'achetais un pommeau de douche d'un seul type. Aujourd'hui, maintenant, tu en as qui te font... Ils te mettent en avant
réduction d'eau.
Ah ben donc tu achètes des pommeaux de douche aujourd'hui qui font de la douche brumisante, de la douche avec juste 4G si t'es un enfant, si t'es un adulte, en fonction de ta corpulence.
Et très donc, intelligent.
Et effectivement, l'argument de l'économie d'eau est devenu maintenant un argument de vente, vu le prix des factures qui vont augmenter aussi. Donc l'industriel est en avance sur le politique.
Mais la régulation de la pression de la flotte. Moi, je suis dans un patelin, par exemple, où le changement de pression est énorme. Parce que des fois, ça tire beaucoup, comme il y a effectivement beaucoup d'agriculteurs autour, ou l'hiver, ça tire plus du tout. Bon, donc t'as des différences de pression. T'as pas de régulateur de pression.
Non, mais...
T'as quasiment une douche qui t'arrache la tête quand il y a de la pression.
Oui. Mais est-ce que tu dis...
Et c'est un filet d'eau quand il y a plus de pression. Donc, tout ça, moi, je le redis, là où je suis vraiment optimiste, c'est que je pense que le défi extraordinaire qu'on peut se donner dans les 50 ans, c'est que justement, l'argent commence à bouger sur tout ça.
Oui, mais moi j'en ai marre qu'on tape sur les agriculteurs. Les agriculteurs nourrissent le pays. Je pense qu'on dépense beaucoup plus d'eau dans nos collectivités, dans les palais dans lesquels vivent nos gouvernants, etc., que les agriculteurs qui eux payent l'eau, d'accord. Donc il la gaspille pas, il s'en servent de manière, je pense, régulée, parce qu'il la paye et c'est pour nous nourrir, c'est pour nourrir le pays. Et à chaque fois qu'il y a une sécheresse, on tape sur les agriculteurs alors que ce sont des professionnels qui nourrissent le pays et non pas des gens qui font juste des caprices.
Je voudrais qu'on aille dans le Pas-de-Calais retrouver l'une de nos grandes gueules, c'est Willy Schran, le président de la Fédération nationale des chasseurs.
Bonjour mon ami Willy.
Bonjour Willy.
Bonjour les Gégés.
Merci d'être là.
Tu voulais intervenir dans ce débat sur l'eau. Pourquoi Willy, dis-nous.
Oui, parce que moi je vais être contre-courant de tout ce que j'entends. En fin de compte,
non, je suis là pour recadrer
les choses rapidement. La pluie en France, c'est 500 milliards de mètres cubes qui tombent tous les ans. L'utilisation de la consommation pour les gens tous les jours, c'est environ 1 milliard. L'agriculture en prend entre 2 et 3. Donc la vérité, c'est qu'il n'y a aucun problème d'hygrométrie. On est dans une psychose écologique comme d'habitude. Qu'on fasse des efforts un petit peu tous, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas là que ça se joue. Le problème, c'est qu'on pourrait tout à fait vivre en autarcie totale avec l'eau si on pouvait la récupérer. Mais évidemment, avec le pognon que ça rapporte à tout le monde, on n'a pas le droit de stocker l'eau et on n'a pas le droit de l'utiliser. Mais on pourrait le faire et en campagne et en ville et ça poserait aucun problème. Donc, quand j'entends ça, c'est pas vrai. C'est pas les bons chiffres. On n'a pas de problème de pluie aujourd'hui.
On a quand même des nappes qui ont baissé. On a des niveaux qui sont presque historiquement bas en ce moment. Donc, il va falloir qu'elles se reconstruisent.
Alain, on a en surface des niveaux qui sont très bas au niveau des rivières. Oui. Ce sont des périodes comme ça. Mais dans l'eau qu'on a dans le fond, ça va à peu près. Il y a un problème. Il faut savoir le dire. Et là, ça touche directement le monde agricole, que je défends toujours. Mais là, c'est le drainage des champs. Avant, on avait une pluie qui tombait et qui s'infiltrait. Maintenant, on draine tous nos champs de culture. Et l'eau, en quelques minutes, se retrouve dans les fossés, puis dans les rivières, puis dans la mer. Et on perd cette eau qui ne descend plus dans les nappes phréatiques. Le plus gros problème est là. C'est on perd toute cette eau qui retourne à la mer, qui fait monter les océans, qui pose plein de problèmes d'ailleurs, entre nous soit dit. Donc il faut qu'on repense non pas notre consommation personnelle, parce que là c'est ridicule, c'est le système actuellement.
Ah merci Willy, on est ensemble.
Merci Willy d'être intervenu dans les GG. À bientôt.
Allez,
Willy.
À tous.
Salut Willy. Willy Schran, président de la Fédération nationale des chasseurs. Sécheresse, est-ce que vous êtes prêt à consommer moins d'eau? C'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. On va voir quelle est votre réaction. Alors c'est un oui, mais regardez, c'est pas un oui qui est largement majoritaire. On est sur un oui, c'est 54-46.
Ah bah, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, vous ouvrez votre robinet, l'eau coule. Donc le jour où il coulera beaucoup moins, bah, vous verrez ce qui va se passer, c'est normal.
Ah. Allez, dans un instant, le monde de Macron 2.
Juste une petite remarque, j'arrête.
Si vous voulez...
Par rapport à ce qui vient de... Toi, parce que j'ai un bassin de rétention dans ma ville.
À Coubron.
Oui, un bassin de rétention, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Il a toujours été vide. Il est sec.
Bah, remplis-le.
Mais remplis-toi avec tes bains, je suis d'accord avec toi, mais ça suffira pas. Ça veut dire que l'eau qui ruisselle n'arrive pas dans les bassins de rétention depuis bien longtemps. Et ils ne servent plus à rien, ces bassins de rétention. Ce qui veut dire quand même que la pluviométrie a nettement diminué. Parce que tu disais tout à l'heure, mais qu'est-ce que font nos édiles et nos députés? Bah, je vais vous dire pourquoi ils peuvent pas le faire. Parce qu'ils sont pas passés par la case conseil municipal et gestion du milieu.
C'est pas, ils peuvent pas, ils veulent pas.
Écoutez-moi, quand vous n'êtes pas passé, par la case conseiller ou maire adjoint, vous ne connaissez pas les problèmes locaux. Et vous pouvez pas, on dit qu'il faut des amateurs à l'Assemblée. Il faut pas des amateurs. Il faut des gens qui ont été confrontés localement aux problèmes.
Allez, voilà. Dans un instant, le monde de Macron 2 et Patrick Balkany est sorti de prison. Il est arrivé à son moulin, là, de Giverny. Allez, on en parle avec les grandes gueules.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Merci d'être au rendez-vous des GG tous les jours en direct. Je dis ça avec Ludovic Taureau, le maire de Coubron, le docteur Taureau. Il était là hier et vous étiez hier 1 100 000 téléspectateurs encore devant RMC Story à suivre nos débats sur l'actualité. On était troisième. Vous voyez, je vous donne les coulisses des audiences. On était troisième chaîne de France hier. Première chaîne de France sur ce qu'on appelle la cible des 25-49 ans.
Donc moi.
Merci. Et effectivement, moi aussi.
Moi aussi.
Voilà. Pourquoi tu as eu quelqu'un au-dessus de 49 ans?
Moi, si l'émission n'avait pas été dans les trois premières, je serais jamais venu chroniqueur. Je me serais jamais déplacé.
Bon, enfin, quoi qu'il en soit, et merci de participer à nos discussions au 32-16. On y va pour le monde de Macron 2. On va parler du couple Balkany.
RMC, les grandes gueules.
C'est avec ambition et bienveillance que je veux aborder les 5 années qui viennent.
Le monde de Macron.
On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais je ne mens pas sur la marchandise.
Il est sorti de prison, Patrick Balkany, ça y est, il est arrivé chez lui à Giverny, dans son moulin. Alors, écoutez 15 secondes d'Isabelle Balkany, qui hier était impatiente de retrouver son époux.
J'attends avec mes quatre pattes, avec nos quatre pattes adorées. Et voyez-vous, je me suis aperçue de quelque chose de nouveau. C'est que un très grand bonheur, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. C'est pour ça que je ne vais rien vous dire de plus.
Elle est géniale.
Voilà, les quatre pattes sont les chiens, bien sûr. La cour d'appel a pris en compte les efforts du condamné pour enfin initier depuis le mois de février 2022 le règlement des sommes considérables dues au trésor. L'état de santé a été pris en compte. Il a effectué les deux tiers de sa peine en droit. Patrick Balkany était dans les conditions, dans les clous pour pouvoir sortir. Et il est arrivé maintenant chez lui à Giverny. C'est un ultime avertissement, dit la cour d'appel, en cas de non-respect des engagements, retour en prison jusqu'au 21 avril 2023.
Là, c'est vrai que le bracelet électronique qu'il avait dansé dans le jardin, c'était peut-être pas terrible. Après, il y avait les quatre pattes et elle le dit qu'il fallait promener hors du jardin. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour les époux Balkany. Je pense qu'ils ont suffisamment payé, ils ont une peine d'inéligibilité. Ils ont fait beaucoup pour Levallois-Perret. Vous demandez à quelqu'un qui habite à Levallois, il va vous dire les époux Balkany ont fait beaucoup. Moi, c'est des gens que je trouve très très sympathiques. Donc, je leur apporte mon soutien.
Ils ont beaucoup volé aussi. Ils ont beaucoup volé. Ils n'ont pas rendu l'argent.
Il sort de prison, il a 73 ans. Je pense qu'il y a un moment, il sort.
Et alors, c'est quoi ce juste à deux vitesses? Parce qu'il s'appelle Balkany, parce que l'autre elle attend avec ses quatre chiens.
Non mais là, il s'appelle Balkany, il est en tôle quand même.
Si tu gueules, je peux gueuler aussi. Pas de problème. Il a été en prison après parce qu'il s'est manqué à plusieurs reprises sur les mesures.
Il avait d'autres
très très confortable. Il a aucune circonstance. À un moment donné, d'abord, rends l'argent, mon pote. Rends l'argent des Français. Il est en train de le faire, il est solvable. Il peut le rendre d'un coup s'il veut. Sauf qu'il n'a pas la volonté, il veut faire taire encore une fois, il veut faire traîner, etc. etc. C'est absolument scandaleux. Moi, j'en ai marre de ces gens.
C'est un acharnement,
j'en ai marre de ces gens en col blanc. Absolument pas, il n'y a pas d'exemple, ma belle. Je t'explique. Tu es un voleur. Tu voles de l'argent public, tu le rends. Et j'en ai absolument marre, moi, de voir ces gens qui sont censés, qu'on parlait tout à l'heure d'exemple. Tu parlais d'exemple, mon cher. Je pense que ceux qui. Enfin, moi, pour moi, en ce qui me concerne,
pas à crier
le,
comme
capitaine,
ça, là.
Le capitaine du navire, les capitaines des navires qui sollicitent les voix des Français doivent toujours être les plus irréprochables.
Ils ont une peine d'inéligibilité.
Et le problème, après s'être gavé pendant X dizaines d'années, donc l'inéligibilité à 75 ans, je m'en tape et je m'en carre. Je ne devrais même plus avoir. Excuse-moi, je ne sais pas quel âge tu as, mais moi je considère qu'à partir d'un certain âge, et tu es bien plus jeune, tu ne dois plus avoir le droit de faire de la politique.
N'importe
la retraite,
quoi.
À un moment donné, il faut l'appliquer à tout
mais
le monde.
Quoi,
c'est
retraite,
pas que pour les
tu
pauvres gens.
Jusqu'à la fin de ta vie, si tu en as envie.
Non, mais c'est bon. La politique, c'est pas un homme avec toutes les voix et tous les mandats. Il faut ce pays.
À chaque fois.
Ce pays.
Ils ont été élus
parce qu'ils ne laissent personne d'autre exister. C'est...
Bah parce que les autres sont nuls en face.
Non, ils sont pas nuls. C'est qu'à un moment donné, quand tu arroses les gens, justement, quand tu voles et que tu redistribues, à un moment donné, bah, tu as une cour autour de toi et point barre. Mais j'en reviens à l'exemplarité. Ce pays.
Attends, calme-toi.
Ce pays, il n'y a pas d'exemplarité pour les cols blancs. Peu importe d'où ils viennent, peu importe de quelle partie ils sont, ils ont toujours un traitement de faveur. Quelqu'un qui va voler, qui n'a pas payé des impôts pour X raisons, va être traîné, il n'aura plus le droit de travailler, etc., etc. Et quand tu es un col blanc, quand tu es un élu, tout est passé. C'est scandaleux.
Il a fait quoi, c'est le droit.
Il a fait les
qui rend de l'argent surtout.
Mais arrête avec rend l'argent.
Non, j'arrête pas. C'est notre argent. Il rend l'argent. Bien sûr qu'il rend l'argent.
Il va le faire.
C'est quoi? C'est à son père? C'est pas un héritage. C'est l'argent public. Donc il le rend.
Non, alors, attention. Là, le fisc, c'est sur un héritage. Effectivement. C'est l'héritage de son épouse. C'est l'héritage.
Mais il a pas payé les taxes.
Après, les contribuables ou une association des contribuables de Levallois attendent que la mairie se mette partie civile parce qu'il y a un contentieux, celui du dossier des tours de Levallois qui n'a jamais été soldé et pour lequel il y a d'autres procédures qui sont en cours.
Il y a l'utilisation des chauffeurs, il y a des abus de biens sociaux, il faut quand même être clair un peu.
Laurent, il y a une peine d'inéligibilité. Il a quand même payé une partie de sa dette à la société.
Une partie.
D'accord. Bon, il a fait de la prison, donc arrête de dire qu'il y a un traitement de faveur alors qu'à 73 ans, il est derrière les barreaux.
Et alors?
Il n'est plus. Maintenant, il est dans son monde de Giverny.
Et alors, il a
fait
quoi de sa peine?
Par rapport à la collectivité, est-ce que dans la rue, là, tout ça, c'est un danger public?
C'est pas une question de danger public.
Ah bah, c'est quand même un élément qu'on peut
alors,
dans ces cas-là,
toutes les personnes qui font la même chose que lui ne sont pas emprisonnées. Moi, je suis contre un traitement de faveur quand tu es un col blanc.
Traitement de faveur.
Ouais, bien sûr qu'il y a un traitement de faveur.
Il y a un acharnement médiatique.
Tout le monde le voit. Il n'y a que toi qui ne le vois pas.
Pas du tout. Il y a un acharnement médiatique sur ce couple. On se dit, on va vraiment se les faire et on va faire un exemple public.
Monsieur,
les juges veulent se payer leur tête.
Il y a un acharnement médiatique, mais le personnage en question est très médiatique.
D'ailleurs, il est en ce moment devant les caméras.
Oui, il n'est pas le genre, j'ai fait une faute et je vais en arrière. Au contraire, il danse comme vous le disiez tout à l'heure. Autre chose, abus de Bain Ciosso, détournement de fonds publics, wow. Prise égale d'intérêt. Il doit rembourser 20 millions, il a remboursé que 6 000 euros à ce jour. Ce que je veux dire par là.
Eh ben, il y a la volonté de commencer.
Arrête de nous prendre pour des cons, c'est franchement très.
Ce que je veux dire aujourd'hui, il soit sorti, c'est le juge qui a décidé, on ne peut rien dire. Mais je voudrais que ça fasse jurisprudence, parce que lui, il y a beaucoup d'avocats qui permettent de faire ça. Mm-mm. Mais je voudrais que tous les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont condamnés pour les mêmes peines.
Et qui sont malades en prison aussi.
Voilà, et pourraient sortir de prison aussi à 73 ans. Ce que je veux dire, il a une armada d'avocats. Je ne suis pas sûr que tout le monde casse.
Attends, il y a l'aide juridictionnelle pour ça.
Entre l'aide juridictionnelle et les avocats qu'il a, on n'a pas.
Alors, je ne suis pas d'accord avec toi. Okay, les confrères à l'aide juridictionnelle passent par exemple, pour être commis d'office ou être en garde à vue, il faut passer un concours. Donc là, oui, dire qu'ils sont moins bien ou mieux, là, je ne te permets pas de dire.
Mais est-ce que tu es d'accord pour dire que des fois.
L'argent et la motivation, toi-même, tu l'as dit. Quand tu es payé beaucoup d'argent et quand tu es payé
un avocat
c'est pas pareil,
qui a une prestance, rappelle-toi le ministre actuel, qui a quand même,
il
a quand même défendu.
Oui.
D'accord. Bon, je veux dire, c'est pas les mêmes honoraires, ou à moins que c'est comme le médecin, c'est 25 euros la consulte. Je ne crois pas. C'est que les honoraires sont libres, je me trompe.
Alors, les honoraires sont bien sûr libres, ils dépendent notamment de l'état de fortune et de d'autres critères. Mais c'est pas parce que tu n'as pas un ténor du barreau que tu ne sortiras pas.
Laurent Magnien.
Non, mais pour moi, je me demande s'il joue pas dans les films d'Arcadie, mais j'hésite entre trois films. Hold Up, Le Grand Pardon ou Arrête ton cinéma.
Merci.
Parce que c'est vraiment, on est quand même sur quelque chose de surréaliste. On est sur quelqu'un qui a quand même effectivement tout ce qu'on a dit, tu l'as dit très justement. Il y a tout un ensemble de plaintes qui est tombé, il y a quand même eu énormément de problèmes. Mais moi j'ai une théorie là-dessus en fait, parce que c'est vrai qu'il est adoré à Levallois-Perret.
Ah oui.
Donc en fait, le culot rend les voyous sympathiques. Non mais c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que le public, les gens qui ont voté pour lui à Levallois-Perret ne voient pas ça.
C'est ça.
C'est donc le culot. Tapi était pareil. Hein, le culot.
Quelqu'un de
le culot mène à tout.
Est-ce que c'est quelqu'un de proche de ses administrés?
Non, mais proche de ses administrés quand on fait ce qu'il y a.
Deux choses. À mon avis, il faut distinguer le dossier judiciaire de ce que pensent la population de Levallois. La population de Levallois, une partie de la population de Levallois qui les a reconduits, d'abord, n'était peut-être pas au courant de toutes les histoires ou toutes les affaires. Ensuite, ils les ont découvert. Et la ville, tu trouvais des crèches facilement, parking facile, des logements facilement, et les administrés, la population de Levallois était plutôt satisfaite. Après, la ville de Levallois, c'est l'une des plus endettées de France. C'est aussi le résultat de tous ces investissements et de tout ce qui a été fait, qui n'a peut-être pas forcément
été.
Gestion
exceptionnelle.
Bien fait. Là, aujourd'hui, ce que je te disais, c'est que dans l'affaire des tours, la mairie de Levallois ne se met pas partie civile. L'association des contribuables de Levallois dit, et pour cause, parce qu'elle est proche du couple Balkany. Or, elle continue la même gestion avec il y a plus de 100 millions d'euros qui doivent être remboursés. Il y a le riad de Marrakech qui appartient toujours au Balkany, qui a été passé aux enfants. Il pourrait être vendu.
Secondaire.
Il pourrait être vendu et ça pourrait solder une partie des dettes de Levallois. Et puis après, il y a ce qui est reproché là au couple Balkany, c'est une histoire d'héritage et de fraude fiscale à titre personnel et privé qui n'a rien à voir effectivement avec la ville de Levallois.
Mais c'est-à-dire qu'en fait ces gens ils ont des reproches dans tous les domaines en fait, que ce soit dans le domaine public, dans le domaine de la gestion de la ville, dans le domaine privé, c'est-à-dire c'est des arnaqueurs professionnels, peu importe ce qu'ils ont entre les mains. Ils ont un héritage, ils ont des taxes à payer comme tous les Français, c'est pas une loi qui est propre à monsieur Balkany ou au couple Balkany, ils ne payent pas les taxes.
Ils ont oublié.
Ils doivent la mairie ne supporte pas, ils ont oublié. Non mais attends, mais c'est une blague. Dans ce cas-là, s'ils sont s'ils ont Alzheimer ou une maladie sénile, excuse-moi, et qu'ils oublient,
ils doivent être
posés alors qu'on les met sous tutelle et que l'État récupère son argent. À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons.
Ils sont en train de rembourser, Kaouk.
Oui, ils sont 6 000 euros sur 20 millions.
Et c'est un bon début.
Ouais, voilà. Non, c'est pas un début. Tout court pour moi. Voilà.
Tiens, si vous.
On leur prenne 5 millions par an et voilà, la dette sera remboursée en 4 ans.
Patrick Balkany.
Ils sont très unis et très soudés.
Arrivé à son moulin de Giverny.
Giverny, oui.
Et ce qui est intéressant, c'est ça aussi.
Monet a décidé de partir.
Non mais c'est ça.
Monet s'en va.
Non mais c'est ce que tu dis, c'est le culot.
Ah non, il est mort.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à peine arrivé au moulin de Giverny, tu pourrais dire bon, là on me dit que c'est mon dernier avertissement, je suis malade, fatigué. La première chose qu'ils font, c'est quoi? S'ils se mettent devant les caméras. Tu pourrais éviter les journalistes, mais ils vont devant les caméras.
Non. Mais après,
pour ceux qui sont devant RMC Story, regardez, c'est l'une des premières images de Patrick Balkany qui est arrivé à son moulin de Giverny. Excessivement amaigri, puisqu'il est malade.
Il est méconnaissable.
Regardez, effectivement. Il est très, très amaigri. Il a les cheveux longs. Il a l'air complètement émacié. On le reconnaît. Mais c'est plus le Patrick Balkany du temps de
Oui, mais excuse-moi, il y a une pipolisation et après on dit qu'il y a un acharnement. c'est eux qui se prêtent à ce jeu et c'est eux qui se servent des médias pour aussi optimiser leur capital sympathie, de dire oh, mon Dieu, je suis malade. Mais il a raison, ils doivent jouer. Ouais, mais tout le monde est malade. Moi aussi, je suis malade. Ben voilà, on est beaucoup à être malade en France. Je veux dire, c'est pour ça qu'on est là à faire des mises en scène médiatiques et après de se plaindre d'un acharnement médiatique. Je veux dire, quand ils sont rentrés dans sa. Ils ne sont pas rentrés de manière illégale, les journalistes. On leur a ouvert la porte, on les a invités, on a fait un communiqué de presse.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, une autre affaire médiatique, politique, celle de l'imam Hassan Iqiyoussen, dont on attend de savoir aujourd'hui s'il va être expulsé vers le Maroc ou pas. Est-ce que vous comprenez cette histoire? Est-ce qu'effectivement, il faut le renvoyer le de France? Ou est-ce que Darmanin fait un coup politique? Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur. On en parle avec les grandes gueules et avec vous au 32-16.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.